you do if I say out of tune? Will you stand up and walk out on me?
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à la génération Woodstock, un festival emblématique de la contre-culture américaine des années 60. Trois jours de paix et de musique portés par des artistes engagés dans une communion libératrice et psychédélique. Jefferson Airplane, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Joe Cocker, révélé par le festival, l'un des miracles Woodstock. Bien plus qu'un festival de musique à l'affiche mythique, Woodstock réunit lors de l'été 1969 plus de 400 000 jeunes en pleine nature pour vivre une expérience unique dans l'histoire de la contre-culture américaine. Un mois avant le festival, des adolescents venus des quatre coins des États-Unis convergent sur le site de White Lake et affirment « Nous sommes contre la guerre, nous célébrons la liberté, la musique et les droits civiques pour toute la population ». C'est un message antipatriotique, pacifique et multiracial dans une Amérique ultra-violente, en guerre depuis 5 ans au Vietnam, et au bord de l'explosion raciale, un an après l'assassinat du pasteur King. Et pour revisiter 50 ans après le mythique festival de Woodstock, je reçois l'écrivain et producteur de radio sur France Inter pour un Very Good Trip, Mishka Sayas.
Bonjour.
Bonjour à vous. Mishka Sayas, vous êtes l'auteur d'un album, d'un livre-album riche de nombreuses photographies inédites, intitulé tout simplement Woodstock, Three Days of Peace and Music. C'est chez GEM Édition. Et dans ce livre, vous nous racontez toute l'histoire du festival, depuis sa genèse jusqu'à son aboutissement. C'est un livre également dans lequel vous passez en revue tous les artistes programmés sur la grande scène de Woodstock, dont justement Sly and the Family Stone. Mmh. C'est également l'un des grands moments du festival, mais c'est l'un des seuls artistes noirs.
Oui, il y a eu également Richie Havens qui a ouvert le festival, qui était un chanteur folk qui s'était produit jusque-là dans des bars de New York devant quelques centaines de personnes ou au coin des rues et qui s'est retrouvé propulsé dans l'histoire et dans la légende. Oui.
Mishka Sayas, je vous propose tout de suite un petit flashback dans ces années 60 aux États-Unis, histoire de comprendre comment a grandi cette génération Woodstock, puisqu'elle est née après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 40, début des années 50. Mm-hmm. Comment faut-il imaginer cette jeunesse ? Dans quelle Amérique a-t-elle été biberonnée ?
Écoutez, on peut le prendre de diverses sources. D'abord, il n'y a pas une jeunesse aux États-Unis, il y en a plusieurs. Et je crois que c'est un point important à souligner, c'est que c'est une certaine jeunesse qui s'est retrouvée à Woodstock et qui était en opposition avec une autre jeunesse qui, elle, ne remettait pas en cause le patriotisme, l'engagement des États-Unis au Vietnam et qui, dans certains cas encore plus épineux, ne remettait pas en cause la ségrégation raciale. Quand on dit que cette jeunesse américaine a célébré la paix, l'opposition à la guerre, la défense des droits civiques, pour donc l'égalité de droits pour les Noirs et pour les Blancs, qui étaient les Noirs qui étaient victimes de ségrégation, eh bien, vous comprenez tout de suite que c'était quelque chose de conflictuel. Et le festival de Woodstock a beau s'intituler « Trois jours de paix et de musique », la préparation de ce festival sur la côte est des États-Unis en cette année l'année 1969 a été loin d'être pacifique et aimable. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'opposition de la part des populations qui vivaient à côté du site où, faut dire que vous imaginez, un festival de musique en plein air, ça n'avait jamais eu lieu dans ces proportions-là. Des hordes de chevelus, drogués, des gens qui venaient même de Californie qui avaient pris du LSD, etc. Enfin, ça terrifiait beaucoup de gens.
Mishka Sayas, est-ce que cette jeunesse qui est donc en opposition avec l'engagement militaire de l'Amérique au Vietnam, entre oui. autres, est-ce que c'est une génération Woodstock qui s'oppose à leurs parents qui, eux, ont créé finalement l'American Way of Life avec oui. des valeurs assez matérialistes?
Ça, c'est très vrai.
Il faut une maison, il faut une voiture.
C'est-à-dire que, si vous voulez, les parents ne comprenaient pas cette espèce d'insatisfaction existentielle de leurs enfants. Ils leur disaient, mais regarde, tu as tout, on mange à notre faim, on a un toit, tu peux avoir une voiture, tu as de l'argent de poche, etc. Et ces enfants, ils disaient, oui, mais quel est le but de cette vie? Et c'était James Dean, Marlon Brando, qui avait cristallisé cette insatisfaction, cette frustration de donner un sens à sa vie.
Et pour cette jeunesse qui s'oppose à la génération de ses parents, il y a aussi la découverte du LSD, c'est oui. un psychotrope oui. aux effets hallucinogènes. J'aimerais savoir quelles sont les premières expériences collectives qui vont associer justement le LSD avec la musique, Mishka Sayas.
Oui, alors ça, c'est un point tout à fait extraordinaire. Juste parenthèse, il faut pas sous-estimer les beatniks, qui avaient, dans les années 50, déjà expérimenté ces modes de vie libertaires, faire la route, se droguer, enfin voilà, donc cette espèce de dérèglement des sens, c'était quelque chose qui était déjà dans l'air. Bon, après ça, il y a eu cette expérience tout à fait singulière qui a été menée à l'université de Palo Alto, dans la région de San Francisco, où un programme, dans un cadre tout à fait officiel, universitaire, a demandé à des étudiants de se porter volontaires, cobayes, pour expérimenter le LSD. Et on estimait que peut-être cette drogue pouvait contribuer à créer une sorte de bien-être collectif et qu'il fallait en avoir le cœur net. Et parmi ces étudiants, il y a eu des musiciens, dont les membres du groupe The Grateful Dead. Et la conjonction de ce qu'étaient les musiciens de Grateful Dead et les psychotropes qu'ils prenaient, parce qu'il n'y a pas eu que le LSD, ils sont allés aussi chercher la psilocybine, les champignons hallucinogènes au Mexique, etc. Bon, eh bien, ça a créé une sorte, si vous voulez, de précipité chimique, c'est le cas de le dire, qui a vraiment suscité la naissance d'une forme de musique qui n'existait pas avant, qui était la musique psychédélique.
Et c'est ce que vous appelez même la révolution psychédélique, oui. Le mot est fort. Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire, Mishka Sayas?
Mais parce que, si vous voulez, avant, pour employer un mot qu'on n'employait pas à l'époque, la musique était formatée, c'est-à-dire que vous aviez des chansons de 3 minutes pour passer au hit parade.
À la radio.
À la radio, exactement. Vous aviez le jazz, vous aviez le rock'n'roll, vous aviez la pop de l'époque, etc. Et là, tout à coup, ces musiciens se mettent à improviser pendant 20 minutes, une demi-heure, à mêler tout ce qu'ils savent. C'est-à-dire que dans le Grateful Dead, ce qui est très intéressant, c'est que vous aviez des musiciens qui étaient des musiciens de country folk, vous aviez des musiciens de blues, mais vous aviez aussi des musiciens de formation classique dont certains avaient été formés à la musique contemporaine. Et donc, et puis il y avait toute cette mode des musiques venues d'Inde, d'Extrême-Orient, le raga indien, toutes ces musiques qui entraînaient l'hypnose, la répétition, qui en fait, ces musiciens ont essayé de retranscrire les images hallucinantes, c'est le cas de le dire, qu'ils voyaient après avoir pris ces substances.
Alors dès 1967, lors du fameux Summer of Love, oui. le LSD est quand même déclaré illégal, mais ça n'empêche pas le mouvement hippie de se fonder sur la drogue, sur le sexe, sur le rock'n'roll. Et certains artistes délirent domicile à la campagne, non loin de New York, dans ce fameux village de Woodstock, justement, pour vivre autrement. Oui. Qui est là? Qui habite là? Qui sont les artistes?
Il faut quand même distinguer, parce que Woodstock, c'est pas tout à fait l'aboutissement du psychédélisme. Il faut savoir que Woodstock a été traditionnellement, et ça remonte au début du XXe siècle, une colonie d'artistes un peu bohèmes qui voulaient, c'était déjà un thème à la mode, retourner à la nature, fuir la civilisation industrielle, quitter la ville irrespirable, et se retrouver dans une atmosphère, si vous voulez, de communauté un peu libertaire, où chacun avait de l'espace pour créer, sculpter, écrire des des poèmes, faire de la musique. Et donc, il y avait une tradition bohème déjà qui existait à Woodstock. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Bob Dylan, qui n'avait strictement rien à voir avec le psychédélisme, qui, alors, vraiment, avec les hippies et les Dylan, ça faisait deux, c'était vraiment l'eau et le feu. Et lui, il était allé là pour se mettre au vert. C'est-à-dire qu'en fait, il avait fui son statut de oracle de la contre-culture. Il s'était marié. Il avait fait 4 enfants. C'est beaucoup. Et il avait vraiment pour but de vivre paisiblement à la campagne. Bon, au bout d'un moment, il s'est ennuyé, il a divorcé. Ça, c'est une autre affaire. Mais disons que pour le moment, il ne voulait pas avoir du tout affaire avec ces gens-là.
Et d'autres artistes que l'on va retrouver sur la scène du festival vivent cette expérience aussi de ce village de Woodstock.
Oui, alors en fait, il y avait Jimi Hendrix qui avait loué une maison à côté. Il y avait Tim Hardin. Il y en avait pas mal d'autres. En fait, il y avait même le manager de Bob Dylan qui s'était installé dans le village de Woodstock, avait ouvert un restaurant et un studio d'enregistrement, etc. Enfin,
c'est... Et dans votre livre, j'ai lu que même Janis Joplin est là.
Eh oui.
Turn me off again. I'll still reach out to hold on to my man. I'll sit down, 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 down. Don't you go. No, 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 no. Honey, don't you leave me. I said, when I want to depend on, I'll die when I want to leave you now. Don't you go and leave. And my man.
La voix de Janis Joplin, Mishka Assayas, vous êtes super ému.
Ah ben c'est impressionnant et enfin et Janis Joplin, enfin il faut savoir qu'elle a plus que quelques mois à vivre hein, après Woodstock, donc c'est un témoignage exceptionnel et c'est un personnage qui est tellement émouvant. Telle fragilité, une telle force en même temps, c'est exceptionnel. Et puis ce qui est intéressant dans le cas de Janis Joplin, c'est voilà un des accidents du psychédélisme, c'est-à-dire que au fond, d'où venait-elle? Je veux dire musicalement parlant, c'est une Texane blanche, bon, qui venait d'un milieu qui n'était pas du tout un milieu misérable et qui en apparence, n'avait aucun lien avec cette musique viscérale, exprimant une sorte de douleur collective qui était le blues. Enfin, et pourquoi est-ce qu'elle s'est identifiée à ce point à Bessie Smith, qui est une chanteuse vraiment qui est aux sources, aux racines du blues,
afro-américaine.
Voilà. Eh bien, c'est je pense. La réponse à cette question, elle est à trouver dans l'essence de sa souffrance intérieure, parce qu'elle était terriblement mal dans sa peau, elle était pas du tout populaire auprès de ses camarades quand elle était étudiante, elle avait même été élue, entre guillemets, le mec le plus moche de la fac.
C'est pas
ouais, c'est sympa. Et puis, elle avait ce groupe, en effet, qui avait été très influencée par le psychédélisme, elle se retrouvait à chanter cette espèce de cri tripal avec des musiciens qui partaient dans des solos interminables. Enfin, c'était une espèce de mélange complètement improbable, propre à cette époque.
Et le miracle Woodstock, Mishka Assayas, oui. C'est aussi ces 10 000 watts qui permettent d'entendre la voix de Janis Joplin.
Oui, alors évidemment, ce qui est sans précédent à Woodstock, c'est l'amplification, enfin la sonorisation et l'amplification, parce que évidemment, qu'est-ce qu'il y avait eu avant? Il y avait le festival de Newport, c'est-à-dire que c'était des amplifications qui étaient encore modestes, et puis c'était pour des publics qui en général étaient très près de la scène et qui n'étaient pas si nombreux que ça. Et là, il s'agissait de faire en sorte que les gens installés dans une sorte d'amphithéâtre naturel, qui était un champ de luzerne, quoi, perdu au milieu de nulle part, puissent entendre où qu'ils soient. Et c'était vraiment un casse-tête que un ingénieur du son exceptionnel a su résoudre. Et c'est d'ailleurs, de manière intéressante, quelqu'un qui avait travaillé sur la dernière tournée des Beatles en 66. Il faut savoir que les premières tournées des Beatles avaient été... Mais un désastre sonore. C'est-à-dire que déjà, les cris des filles qui hurlaient avaient la puissance d'un réacteur, de jumbo jet, et donc elles couvraient les trucs. Et il faut savoir que le son, vous savez par où passait le son dans 64, 65, il passait par les petites enceintes qui étaient faites pour annoncer les résultats du baseball.
Donc c'est pour ça que c'était si mauvais.
Ah ben oui. Ils s'entendaient pas, ils avaient disons pas de retour. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est intéressant à souligner.
Et à Woodstock, le 15 août 1969, c'est Richie Havens qui ouvre courageusement le festival le premier jour devant 50 000 personnes déjà réunies.
Turn the guitar off, Mike, please. Guitar, Mike. Freedom, freedom. Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along way from my home, yeah, yeah, Lord. Clap your hands, 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 clap your hands. When I need my brother, brother. When I need my father, father.
Freedom par Richie Havens dans La Marche du Monde sur RFI, vêtu d'un boubou orange à l'africaine. Pourquoi est-ce que c'est un premier moment de légende pour vous, Mishka Assayas ?
Ah ben, parce que ça cristallise ce qu'a été Woodstock, c'est-à-dire l'improbable. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Richie Havens, il devait pas du tout chanter à ce moment-là, il devait pas chanter aussi longtemps, et... rien n'était prévu dans ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, à cause des embouteillages sur les routes menant la route, enfin il y en avait qu'une, menant au site, les groupes étaient complètement bloqués. Donc toutes les installations de sonorisation, les équipements, etc. n'étaient pas arrivés. Donc les organisateurs avaient annoncé que la musique commencerait à 5h de l'après-midi et il n'y avait absolument aucun des groupes qui pouvait jouer qui était prêt. Donc on a demandé à ceux qui se trouvaient sur place, qu'on avait sous la main, de se lancer. Donc Richie Havens est arrivé comme en plus c'était facile. Il avait deux musiciens, il y avait un qui jouait des congas, un autre guitariste, enfin bon voilà, et donc ils sont pu monter dans un hélicoptère prêté par un fermier, et donc il est arrivé sur scène, et au bout de trois quarts d'heure, ou une heure et demie, je sais pas combien de temps ça devait durer, il pensait devoir partir, et les organisateurs lui disent non, il faut que tu tiennes la scène, parce qu'après toi, il n'y a rien. Donc ils lui ont demandé, mais de continuer 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, parce que le type, il a fait un marathon, il n'en pouvait plus, donc il a refait cette chanson qui est devenue comme une sorte de d'hypnose, quoi, Freedom, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, et c'est devenu, ça s'est étiré, jusqu'à ce que ça devienne une transe, et d'ailleurs, c'est le moment le plus extraordinaire au début du film Woodstock, c'est ce qu'on voit, ce type sorti de nulle part, parce que personne ne le connaissait. Il avait chanté devant quelques centaines de personnes seulement à New York, c'était plutôt un musicien des rues, il s'est produit une sorte de miracle.
Donc le festival débute le vendredi 15 août, les organisateurs ne contrôlent plus rien, vous nous l'avez expliqué. Le gouverneur de l'état de New York, Nelson Rockefeller, déclare même le site de White Lake sinistré, c'est ce qu'on peut lire dans votre livre. La pluie se met à tomber, la boue est partout, et les membres de la Hog Farm sont appelés à la rescousse. Alors, qui sont-ils et en quoi sont-ils une communauté emblématique de Woodstock ?
Alors, c'est une communauté qui s'était constituée dans les environs de Los Angeles, dans un ancien élevage de porcins. C'était eux qui avaient été choisis par les organisateurs pour assurer l'intendance. Donc, ils sont arrivés avec leur bus bariolé. Vous savez, c'était une communauté de hippies, quoi. Et donc, ils étaient arrivés, ils avaient traversé tout le pays. Et c'était eux qui étaient censés confectionner, faire des chemins pour les festival, mettre des pancartes, installer des sites pour camper, veiller à ce que personne soit écrasé, etc. Mais enfin, très vite, ils ont été complètement dépassés par les événements, parce qu'il y avait presque rien à bouffer. Tout avait été sous-dimensionné. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça a été sportif.
Vous disiez, Mishka Assayas, il ne faut pas avoir une vision de la jeunesse présente à Woodstock monolithique. Non. Il y a plein de communautés différentes. Alors, il y a beaucoup de hippies. Comment faut imaginer les communautés qu'on peut croiser dans les champs de luzerne à Woodstock?
C'est pas tant qu'il y avait des communautés diverses et variées présentes à Woodstock, parce qu'au fond, c'était plutôt un esprit d'unanimité qui régnait. Mais il y avait des gens qui avaient toutes sortes de marottes, quoi. C'est-à-dire, parce qu'à l'origine, c'était aussi un festival d'artisanat. Donc, il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient des objets artisanaux. Alors, je ne saurais pas vous en faire la liste, mais enfin, des choses tressées, des verroteries, des t-shirts teints selon une technique particulière. Enfin, il y avait aussi des gens qui voulaient vous enseigner le sens de la vie, qui voulaient vous initier à la sagesse orientale.
Au
yoga, qui avaient des projets pour réorganiser la société, etc., pour entrer en contact avec les extraterrestres. Enfin, vous voyez, c'était tous les illuminés des quatre coins. Enfin, c'était quand même un rassemblement de gens qui n'étaient pas du tout cadrés. C'est ça qu'il faut voir.
Et en même temps, cette jeunesse rassemblée à Woodstock, elle est là d'abord pour célébrer la paix. Et vous écrivez, Mishka Assayas, que c'est un véritable défi pour une génération qui a grandi dans un monde où la peur de la guerre est quotidienne. Vous rappelez d'ailleurs que nous sommes seulement 7 ans après la crise de Cuba. Ça a quand même été un vrai risque de Troisième Guerre mondiale, un vrai risque nucléaire. On était quand même en pleine guerre froide qui menaçait de devenir très chaude.
Oui. Ben, vous savez, il ne faut pas perdre de vue que la jeunesse américaine devait, ça c'est John Baez qui le raconte, se livrer à des exercices d'autodéfense pour parer à une éventuelle attaque de missiles soviétiques, voire à largage de bombes atomiques. Donc John Baez raconte qu'il y avait des alarmes et qu'il devait courir, se réfugier dans des abris souterrains, etc. Elle a refusé de le faire. Elle estimait que c'était inutile et qu'elle refusait de se plier à ça, et ça s'est très mal passé pour elle. Mais il y a un climat effectivement extrêmement oppressant pour cette jeunesse. Faut quand même pas oublier que la conscription évidemment était obligatoire pour le Vietnam, que ils voulaient pas aller au Vietnam, et quand ils voulaient pas aller au Vietnam et qu'ils déchiraient leurs papiers militaires ou qu'ils brûlaient leurs papiers, ils se retrouvaient en tôle. Le mari de John Baez, qui était objecteur de conscience, donc c'est-à-dire qui refusait d'aller faire la guerre, s'est retrouvé condamné à plusieurs années de prison. On lui a mis les fers aux pieds, etc. Enfin, c'était... Dire, aujourd'hui, on a l'impression de dire « Oui, je suis pour la paix dans le monde », ça fait de vous une espèce de rêveur qui dit quelque chose de sympathique et personne n'y objecte. Mais il faut comprendre que dire qu'on est pour la paix dans le monde en 1969, ça fait de vous un dangereux gauchiste, quelqu'un qui déteste son pays, quelqu'un dangereux qu'il faut étouffer, quoi. Enfin, c'est...
Et John Baez, que vous venez de citer, donc l'une des vedettes de Woodstock, évoque son mari sur scène. Elle est d'ailleurs enceinte de 6 mois. Oui. Lui, vous l'avez dit, est condamné à 20 mois de prison pour avoir refusé cette conscription pour le Vietnam. Et pour lui, elle chante Joe Hill, un chant dédié à un ouvrier gréviste condamné à mort en 1915 pour un crime qu'il n'a pas commis.
One of my husband David's favorite songs. And let me just tell you, that he's fine.
Je vais vous chanter l'une des chansons préférées de David, mon mari. Laissez-moi vous dire qu'il va bien.
And David was just shipped from the county jail, which is very much of a drag, to a federal prison.
David vient juste d'être transféré de la prison du comté, où c'est plutôt l'enfer, jusqu'à la prison fédérale, qui ressemble à une grande colonie de vacances à côté.
This is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks.
Bref, c'est une chanson de syndicaliste. J'ai eu le plaisir d'apprendre qu'après 20 jours de prison, il a déjà fait la grève de la faim avec 42 prisonniers de droit commun.
You already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so.
Autre moment militant à Woodstock, il y a 50 ans, Country Joe and the Fish. Écoutez le témoignage de Barry Melton, guitariste du groupe. C'est une archive, La Marche du Monde.
Je m'appelle Barry Melton. Je suis un musicien des États-Unis et je jouais la guitare avec Country Joe and the Fish pour Woodstock. En 1969, et pendant Woodstock, j'ai 23 ans.
Ladies and gentlemen, please welcome warmly Country Joe the Fish.
Barry Melton, est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce moment d'il y a 40 ans lorsque vous arrivez sur le site du Festival de Woodstock?
Je suis dans un hélicoptère avec Joe Cocker et the helicopter flew over the 2 miles it took to get to the site.
Depuis l'hélicoptère, on se rendait bien compte qu'en plus des 500 000 personnes présentes sur le site, il y en avait encore 500 000 autres autour du site.
See the movie Woodstock, you only see the people who were
Dans le film Woodstock, on ne voit pas cette foule en marche, ni les gens dans les forêts alentours qui ne pouvaient pas s'approcher, mais seulement les spectateurs présents sur le site. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle concentration de gens. Depuis l'hélicoptère, on a bien vu qu'en réalité, 1 million de personnes étaient là.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We're certainly delighted to be here today. I'd like to start off our portion of the show by giving you a taste of a little something we call rock and soul music.
Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce festival de Woodstock? Et pouvez-vous nous parler de votre groupe que vous avez cofondé, Country Joe and the Fish?
We had many friends who were participating in the festival.
Beaucoup de nos amis musiciens participaient au festival, les Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, dont j'étais très proche.
Janis was a very close friend of mine.
Country Joe and the Fish, est-ce que c'est un groupe politisé à Woodstock en 69?
Peut-être. Nous sommes un groupe politisé. J'ai joué la musique psychédélique de le temps. We played.
Nous étions engagés, mais on jouait aussi beaucoup de chansons d'amour.
Love songs.
Est-ce qu'on peut évoquer cette anecdote célèbre de votre attitude sur scène à Woodstock? Il y a à l'époque un mot interdit. Je vais le dire en anglais. Fuck. À l'époque, comment vous faites pour dire ce mot sur scène, justement, et quel est le sens de cette prestation?
Les années 60 were a time when barriers were being broken.
C'est une époque où nous avons fait tomber de nombreuses barrières, notamment celles qui nous empêchaient de parler librement.
Freedom of speech, which
la liberté d'expression existait dans notre constitution, mais pas dans la réalité. Je dois préciser que nous étions poursuivis dans l'état du Massachusetts pour avoir prononcé simplement ce mot sur scène. Évidemment, ce mot pris hors contexte ne veut rien dire, c'est une exclamation. Mais nous, lorsque l'on prononçait ce mot, c'était pour faire tomber la barrière qui censurait la liberté d'expression.
Barry Melton, pour ne pas être sous le coup de la loi, votre groupe trouve la solution. Au lieu de prononcer le mot interdit, fuck, chaque membre du groupe va demander au public de lui épeler une par une les lettres du mot, c'est-à-dire F, U, C, K.
Give me an F, give me a U, give me a C, give me a K. And we didn't say it, the audience said it.
C'est le public qui a dit le mot en entier, pas nous.
I mean, part of the idea was to not get arrested. Part of the reason to spell it out is.
L'idée, c'était de ne pas se faire arrêter. En faisant épeler le mot au public, ça permettait au moins d'avoir un argument devant un juge. Aucun d'entre nous n'a dit quelque chose de mal. C'est le public qui a prononcé le mot, et s'il vous faut un coupable, arrêtez-les tous. C'est ce que j'aurais répondu.
So arrest them all. That would be my answer.
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of.
Faites-nous partager ce moment il y a 40 ans. Vous êtes sur scène. La chanson, c'est I Feel Like I'm Fixing to Die a Rag.
That was a parody.
C'était une parodie de l'attitude des États-Unis dans la guerre au Vietnam. C'était une chanson pour les gens qui contestaient la guerre. Nous n'avions pas de message pour ceux qui soutenaient la guerre.
To people who were supporting the war.
Man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven.
Vous questionnez la foule. Vous dites, one, two, what are we fighting for? Do you remember?
Oh, one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Oh, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn.
Louder!
Vietnam. And five, six,
l'action politique, le message politique, c'est un des aspects de Woodstock. L'autre aspect très très fort, c'est cette espèce de ville dans laquelle les gens se retrouvent pour célébrer la paix, pour célébrer l'amour. Et puis il y a la météo qui s'en mêle et il se met à pleuvoir.
Yeah, I am the person who tried to stop the rain by getting the crowd to put its psychic energy together.
Je suis la personne qui prétend arrêter la pluie en appelant la foule à concentrer toute son énergie psychique. Ça n'a pas marché, mais ce qui est important, c'est qu'à l'époque, j'y croyais.
I thought it could work, and that's what matters.
Et on a le document sonore, on entend tout Woodstock crier avec vous. Stop the rain, stop the rain. On l'entend dans cette émission. À l'époque, Barry Melton, quels étaient vos rêves? Quelles étaient les choses auxquelles vous croyiez? De la même façon qu'à l'époque, vous croyiez que la pluie, ben, vous pouviez tous ensemble l'arrêter. Quels étaient vos rêves?
Les années 60 were filled with people who thought they could do things they couldn't do.
Les années 60 regorgeaient de gens persuadés qu'ils pouvaient faire des choses impossibles. Mais il y a aussi des choses auxquelles nous avons eu raison de croire. Les années 60 ont contribué à libérer l'imagination et je crois que c'est notre contribution principale.
Dans cet esprit justement d'imagination, de libération, on a des images un peu clichés, des jeunes gens qui se déshabillent, qui font l'amour dans la boue. Est-ce que c'était vraiment ça ?
We thought we were creating an alternative culture. We were going to be different.
Nous pensions pouvoir créer une culture alternative. Nous voulions être différents. Nous ne voulions pas consommer comme les autres. Nous ne voulions pas nous habiller comme les autres. Nous ne voulions pas penser comme les autres pensaient. Nous voulions agir différemment.
Gentle with the land, like the Native American Indians. We were going.
Être doux avec la terre comme nos ancêtres les Indiens. Nous allions vivre tous ensemble en harmonie avec la planète. Et au fond, aujourd'hui, ce n'est pas une si mauvaise idée.
That's not such a bad idea today. J'espère.
Thank you. Merci, Barry Melton.
I heard a song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it. All night, unforgettable because all of the players were playing together and all of the heavies were light as a feather. All I'll remember is a feeling tomorrow, but as I recall, the
Vous êtes bien sur RFI. L'utopie Woodstock racontée par Barry Melton, c'était en 2009, une archive de la Marche du Monde. Trois jours de paix, de musique, racontée avec notre invité Mishka Assayas à l'occasion de son livre Album, avec plein de photos incroyables et inédites, parues aux éditions GM, où l'on apprend que le nom du groupe Country Joe and the Fish est inspiré par une formule de Mao Tse-Tung.
Mais oui, le révolutionnaire doit être comme un poisson dans l'eau. Eh oui. Absolument.
Alors, la génération Woodstock, la génération de la contre-culture, mais contre quelle culture? Réponse avec deux jeunes festivaliers, toujours dans le film Woodstock. Écoutez Jerry et sa copine anonyme.
Je connais Jerry depuis 6 mois. Quand il est venu dans la famille, la communauté que je connaissais, j'ai appris à le connaître et à l'aimer. On fait l'amour, mais je garde toute ma liberté, car on n'est pas ensemble ni amoureux. Je peux communiquer avec mes parents sur un certain plan. Cela fait 2 ans que je suis partie. Au début, c'était dur. Maintenant, cela commence à s'arranger. Mais je ne peux pas vraiment communiquer sur les sujets importants, parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre. Ma mère a beaucoup, beaucoup de peine car elle est persuadée que j'irai en enfer et je ne peux rien y faire. Elle ne veut pas comprendre que ça n'existe pas pour moi. Sur ce plan, c'est le mieux.
My father once asked me whether I was in a communist training camp or something in the house that I lived in.
Mon père me croyait chez les communistes. Dans cette communauté, remarquez, je le comprends, c'est un immigrant. Il croit au pouvoir du dollar, il ne comprend pas mon refus. Il se demande pourquoi je ne joue pas le jeu. Il dit que j'ai mes chances ici. Tout ça compte pour lui, pas pour moi. Mais enfin, il est assez sage pour me laisser être moi-même. Je me suis drogué, même très fort. Mais maintenant, tout ça me paraît truqué. C'est comme la révolution, le front uni et tout. Je suis un être humain et c'est tout ce que je veux être. Je ne veux pas un changement énorme. Je veux être moi-même et trouver un lieu où je puisse maintenir une sorte d'équilibre en moi. Je n'ai pas besoin d'être président, ni de monter si haut. Je n'ai pas à grimper. Pourquoi grimper? Tout est ici. Les paumés viennent ici pour trouver un guide. Au fond, chacun vient chercher une réponse, quand il n'y en a pas. Croyez-vous que des dizaines de milliers de personnes ne viendraient ici que pour la musique? Franchement, je ne le crois pas. En fait, ils ne savent pas comment vivre. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils croient qu'ici, ils auront la réponse. Au fond, ils sont désorientés.
Du premier opéra rock de l'histoire, Tommy, par le groupe Les Who, évidemment présent à Woodstock, histoire de faire le bilan d'un festival mythique, Mishka Sayas. Comment vous la pensez, cette utopie Woodstock?
Eh bien, j'ai été extrêmement déçu quand j'ai vu que cet idéal des hippies avait été trahi par ceux-là même qui l'avaient incarné. Et c'est ça qui m'a fait m'identifier à la révolte punk, qui au fond était celle de hippies déçus qui coupaient leurs cheveux et qui avaient transformé le signe plus en signe moins. Mais c'était la même intensité et la même passion.
Et dans la série des déceptions, oui, on peut peut-être poser la question de la place des femmes dans tout ça, parce que 400 000 personnes s'envolent ni violence, sachant que les filles sont sous psychotropes.
Oui.
Est-ce qu'elles étaient vraiment consentantes pour l'amour libre dans la boue avec plusieurs partenaires?
J'ai les mêmes doutes que vous. Je pense qu'il y a eu des aspects certainement très sombres à Woodstock. Vous parlez en effet de ces viols cachés. Il y a également eu des overdoses catastrophiques.
Il y a eu au moins un mort.
Il y a des gens. Mais disons, il faut quand même relativiser et se dire que 400 000 personnes, voire plus, sans une sécurité professionnelle, sans encadrement, aurait pu s'entretuer, aurait pu se piétiner, et ça n'a pas été le cas. Et ça, tout le monde s'accordait, c'était un miracle. Donc en fait, voilà, pour résumer, je dirais que ça m'a fait rêver, ça a changé ma vie. J'ai été déçu que dans la société, les promesses de Woodstock n'aient pas été tenues, mais c'était tellement irréaliste, tellement utopique, tellement délirant, tellement vrai, juste pendant 2 ou 3 jours, que ça ne pouvait pas être un modèle d'organisation. Mais je pense que j'ai été victime, entre guillemets, de cette croyance, comme beaucoup de jeunes de mon âge, qui s'imaginaient que fuir la réalité était une solution.
Et néanmoins, le tout dernier événement éminemment musical de Woodstock, c'est Jimi Hendrix, oui, programmé en vedette, mais un événement éminemment politique aussi. Oui. Nous sommes le 17 août 1969, c'est très tôt le matin. C'est Jimi Hendrix, jeans, pattes d'éléphant, bandeau rouge sur le front, veste à franges, et il interprète...
Oui, l'hymne à la bannière étoilée, Star Spangled Banner, et qu'il distord et déforme complètement. Alors, on a voulu voir toutes sortes de choses dans cette interprétation si singulière. Il est certain qu'il y a une sorte d'absorption de la violence, de la laideur, du bruit, de la cacophonie. Vous savez, Jimi Hendrix avait été parachutiste et il avait vu la guerre. Le napalm, les hélicoptères, etc., il connaissait. Et en même temps, quand on l'a interrogé là-dessus, il a dit que ça avait été pour lui comme une réinvention de l'hymne américain, mais qu'il n'y voyait pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire pour lui, c'était comme une naissance dans la douleur, dans le déchirement d'une nouvelle conscience collective. Il l'a pas dit comme ça, mais je pense que il ne le voyait pas comme un acte purement de critique politique. Je crois que c'est un peu trop. Ça serait vraiment réduire Hendrix, qui était beaucoup plus spirituel que ça.
Et en tout cas, un geste, oui, musical qui a cristallisé cet engagement contre la guerre du Vietnam,
oui,
et qui a nourri de nombreuses manifestations.
C'était un commentaire artistique de quelqu'un qui a voulu effectivement faire cohabiter la beauté et la laideur. Voilà, d'une certaine façon.
Merci.
Merci à vous.
Mishka Assayas, je rappelle votre livre Woodstock, donc l'événement qui a changé votre vie, chez GM Éditions. Génération Woodstock, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Richard Rifono. Plus d'infos et de photos sur nos réseaux sociaux, écrivez-nous, exprimez-vous. Cette émission, c'est la vôtre.